Quand le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars.
Bienvenue à la complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Bienvenue à l'émission La Complainte du Travail, une émission qui vous est présentée par l'organisme Illusion Emploi de l'Estrie, un organisme de défense et de promotion des droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués. Alors, on vous rappelle qu'à toutes les émissions, on vous présente un thème qui touche de près ou de loin le travail, les travailleurs et les travailleuses, évidemment, la précarité de l'emploi et tout le kit. Aujourd'hui, on a choisi d'aborder la question du profilage racial. Alors, nous allons aborder un sujet là, qui a fait et qui continue de faire couler beaucoup, beaucoup d'encre dans les différents médias, journaux et autres. Alors, je vous rappelle, le profilage et la discrimination. Pour en parler avec nous, on a Manon Brunel. Bonjour.
Bonjour, Sandy.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par profilage?
En fait, le profilage, c'est un phénomène qui a probablement toujours existé, mais qui est devenu plus apparent, on va dire, autour des années 80, quand on a constaté qu'il y avait une présence accrue de personnes plus marginales dans l'espace public. Alors, on le sait, on a l'augmentation des personnes itinérantes, l'augmentation des jeunes de la rue, l'augmentation de la prostitution, ces choses-là.
Est-ce que ça a coïncidé aussi avec l'arrivée de massive de personnes immigrantes? Est-ce qu'on s'est mis à ce moment-là à accueillir plus de personnes?
Il n'y a pas un lien. Il y a un profilage qui peut se faire en lien avec l'immigration, mais tu vas trop vite, Sandy. Là. On va y aller en présentant les choses par le bon ordre. Là, tout ce que je voulais dire, c'était comment est apparu le phénomène du profilage qui, comme tu l'as dit très bien, continue d'être d'actualité et connaît une expansion, malheureusement. Fait que ce qu'il faut comprendre du profilage, c'est que ça vise à la présence de personnes dans l'espace public. On va parler en premier lieu du profilage dans l'espace public. Ce que c'est en fait, le profilage, c'est une mesure de contrôle qu'on exerce en faire des catégories ou une catégorie d'individus qui leur enlève à ce moment-là le droit de s'exprimer, de se rassembler, de vivre les différences. On va le voir pourquoi tantôt quand je dis « vivre la différence », et qui sont souvent l'objet d'harcèlement de la part des forces de l'ordre, les policiers ou autres. C'est ça le phénomène du profilage. C'est ce que ça veut dire. Ça empêche les personnes, comme j'ai dit, de se rassembler et autres. Donc, il y a un déni de droit, mais ça a des répercussions parce que souvent, ce que ça va viser, c'est à expulser ces personnes-là des lieux publics, leur donner des amendes. Et dans certains cas, on l'a vu, là, des périodes de détention. Si je pense, quand je fais référence aux arrestations, je pourrais vous en parler plus longuement tout à l'heure, mais ça fait beaucoup référence aux nombreuses arrestations qu'il y a eu depuis quelques années lorsqu'il y a des manifestations. On a juste à penser au Sommet des Amériques à Québec, hein, ou encore au dernier G20, on le sait, il y a eu des arrestations. Il y a eu beaucoup par la suite des personnes, des personnalités, des organismes comme la Ligue ou autres qui ont rendu des rapports disant ces accusations, il y avait des choses abusives. Et ça a sonné une cloche. Est-ce qu'il n'était pas en train de s'installer un phénomène qui allait prendre de l'expansion puis qui allait encore plus être contrôlant?
Manon, ça me fait penser aussi, tu me diras si j'assimile bien ce que tu es en train de dire. Tu sais, l'itinérance à Montréal où, je vous donne un exemple, si on voit une personne en complet, veston, cravate, crachée par terre, jamais personne ne va lui donner d'amende, mais si un itinérant le fait, pouf, on va lui donner une amende pour, j'ai pas le terme exact.
Ben oui, effectivement, là. Écoute, si on parle de profilage, il y a des facteurs qui déterminent le profilage, OK? Ça ne vient pas comme ça, mais il y a des facteurs qui détermine davantage l'âge. Si tu vois un groupe de jeunes assis dans un parc à Montréal, tu vas présumer que c'est des fainéants, des jeunes de la rue, ces choses-là. Ils vont certainement être beaucoup plus ciblés s'ils sont en train de se rassembler un groupe et qu'ils discutent que si tu vois des personnes de l'âge d'or qui font des exercices de tai chi dans le même parc. Mm-hmm. Fait que déjà, le facteur âge, dans un cas comme celui-ci, on le voit, c'est un facteur déterminant. la couleur de la peau. Hein? Je pense qu'on n'a pas besoin d'élaborer plus que ça. Je pense que le phénomène du profilage existe, est très présent, mais il va l'être davantage avec quelqu'un qui a une couleur de peau qui ne ressemble pas à un blanc québécois d'origine, n'est-ce pas? Fait que la peau noire, ça, c'est déjà assuré qu'il risque d'avoir plus de profilage. Les Asiatiques et d'autres, les personnes autochtones aussi sont aussi visibles à cause de la couleur de la peau et facilement identifiables. Tu l'as dit tantôt, le look, mm-hmm. hein, effectivement, le punk, le gothique, ou tous ceux qui ont l'air différents un peu, s'ils sont dans le même espace public, ils vont faire beaucoup plus l'objet de contrôle que le complet cravate que tu disais tout à l'heure. Imagine-toi la même chose, tu es assis sur l'heure du dîner dans un parc, j'aurais pas grand risque d'être harcelée par les forces de l'ordre, mais il est possible qu'une personne qui soit à côté de moi puis qui a un look différent soit, elle, plus victime des forces de l'ordre. Dans certains cas, l'opinion politique, parce qu'on va le voir, il y a différents types de profilage et l'opinion politique, c'est un facteur déterminant dans le profilage. Le lieu de résidence. Mm-hmm. Je vais dire que ce soit Montréal ou Sherbrooke. On va prendre la ville de Sherbrooke. On connaît quand même nos quartiers. Je présume qu'il y a moins de surveillance dans le quartier nord de Sherbrooke. Il peut y avoir de exact, dans Ascot ou dans les quartiers qu'on dit plus pauvres ou avec des personnes de minorité visibles qui peuvent être des résidents de ces quartiers-là. La condition sociale. Si tu es identifié comme étant une personne itinérante, une personne à l'aide sociale, pour tous ces facteurs-là, hein, tu n'auras peut-être pas le même look, tu n'auras peut-être pas l'air d'un complet cavrette, mais ta condition sociale peut faire en sorte que ça aussi, ça va être un phénomène de ciblage. On va t'accoler une étiquette ou on va croire que tu es une personne et on va automatiquement avoir des préjugés à ton égard.
Puis là, est-ce que tu es en train de nous parler là, qu'on est rendu dans un état totalitaire puis contrôlant là, un peu à la Big Brothers, là?
C'est vrai que j'ai l'air alarmiste, hein, mais c'est parce que c'est un phénomène extrêmement inquiétant. C'est pas le phénomène isolé qui est inquiétant, c'est les conséquences que ça a et ce que ça vient de faire, justement. On se cachera pas, là, si le profilage est apparu, ça avait des raisons. C'est certainement pas arrivé pour rien. Il n'y a jamais rien qui arrive sans rien. Bien, le profilage, on le sait, ça sert beaucoup les intérêts des dirigeants. Quand j'ai fait référence tout à l'heure au G20, ben c'est ça, hein, c'est le contrôle absolu des dirigeants qui ne veulent pas être dérangés quand ils se réunissent dans des sommets économiques. Mm-hmm. Ça sert des politiciens, ça sert des élus municipaux. Hein, on ne veut pas d'opposition à nos décisions. On veut un petit règne tranquille, puis on ne veut pas que la population nous dise qu'elle n'est pas en accord avec ce qu'on a décidé pour elle. Puis, à l'extrême, ben on veut une image parfaite et propre de notre ville. Quand je parlais tout à l'heure mm-hmm. des itinérants ou autres, c'est mm-hmm. ça, là, ça vise ça.
Puis tu parlais tout à l'heure, tu sais, du sommet des Amériques et ou du G20, puis c'est le climat de peur hein, que ça l'installe. C'est en agissant comme ça, bien, ça fait en sorte, parce qu'on sait très bien que les gens qui ont été arrêtés au G20, pour la plupart, n'ont pas eu de charge contre eux qui a été retenue. Mais combien de personnes, après ça, vont s'abstenir d'aller manifester parce qu'on a peur des règlements? Alors, l'importance que ça a au niveau du contrôle de l'opinion publique, les craintes après que ça l'installe?
Tu as tout à fait raison. Il y a les conséquences directes lors de l'événement, mais il y a aussi ce climat de peur que ça l'engendre. On le sait, toi et moi, on travaille dans des organismes communautaires. On va souvent, nous autres, à des manifestations et on a vu la résistance et la réticence de beaucoup de personnes maintenant à participer à des manifestations parce qu'ils ont peur de voir apparaître la police. Ils ont peur des conséquences. Alors, c'est pas anodin. Quand je dis que c'est pas anodin, c'est on vient d'enlever le droit où on vient museler ce droit-là en instaurant des mesures de répression qui font peur aux gens, bien sûr, puis qui font qu'on ne peut plus donner notre opinion libre comme avant.
Une super bonne introduction. On va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite après.
Fausses infos, fausses poitrines, fausses photos pour de faux magazines, faux guérisseurs, fausses fortunes, faux électeurs dans les fausses communes, faux soldats dans les fausses guerres. Ça va finir qu'on sera tous des faussaires.
fausses faucilles, faux garçons aux bras de fausses filles, faux serments pleins de faux rêveurs, faux calmants pour de fausses douleurs, faux pur sang sous de fausses crinières. Ça va finir qu'on sera tous des faussaires. Pour en sortir, c'est du délire, c'est un vrai casse-tête. Même tes faux sourires te font de vraies faussettes. Fausses rumeurs, fausses annonces, faux sauveurs donnant de fausses réponses, fausses amours, fausses postures, faux chanteurs dans sa fausse voiture, faux bijoux donnant de fausses rivières. Ça va finir qu'on sera tous des faussaires. Pour en sortir, c'est du délire, c'est un vrai casse-tête. Même tes faux sourires te font de vraies faussettes. Faux prêcheurs, faux prophètes, faux joueurs mimant la fausse défaite, fausse Bible ou bien sa fausse lecture, faux touristes dans la fausse nature.
Rebienvenue à l'émission La Complainte du Travail, une émission qui vous est présentée par l'organisme Illusion Emploi. Alors, on vous rappelle que le sujet d'aujourd'hui, c'est le profilage comme objet de répression et de contrôle de la population. Alors, Manon, qui est avec nous, Manon Brunel, bienvenue encore. Bonjour. Alors, Manon, est-ce qu'il y a plusieurs types de profilage?
Oui, justement, tout à l'heure, en première partie, tu nous as dit le profilage racial. T'as raison, ça en est un. Mais en fait, on identifie clairement trois types de profilage. Et il y a des différences quand même dans les trois types. On parle du profilage racial, le profilage politique et le profilage social.
Okay. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire une petite explication vraiment de chacun des types?
Oui, je vais décortiquer chacun des profilages. Ça va peut-être être plus clair. Mais remarquez qu'il peut y avoir la même personne pour être victime des trois. Là.
Effectivement.
L'un n'empêcherait pas l'autre. Mais il y a vraiment des composantes pour chacune d'eux. Ben, dans le cadre du profilage racial, je pense que je n'ai pas besoin de le dire, ça vise la race, souvent la couleur de la peau, l'ethnie, le pays d'origine, comme les personnes noires, les Asiatiques, les Sud-Américains. Ceux qu'on peut identifier plus facilement comme étant des non-Québécois de souche ou récemment arrivés. Là. Je dis ça parce qu'on constate, malheureusement, mais c'est un constat, que les personnes européennes, qui ressemblent beaucoup aux Québécois, risquent d'être beaucoup moins victimes de profilage. Mm-hmm. Moi, les données que je vous donne, c'est beaucoup inspiré du rapport de la Ligue des droits et libertés, puis des avis qu'a émis la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Alors, c'est là que j'ai pu tirer ces conclusions-là à la lecture des documents que vous pouvez aller chercher si vous voulez en savoir plus, parce que c'est un dossier extrêmement intéressant. Il est clair, puis je pense que je ne rappellerai rien d'événements que le monde ne se souviendra pas, la population des jeunes noirs à Montréal est très sur-surveillée et sur-judiciarisée, contrairement à d'autres ethnies ou aux jeunes blancs. Si on se rappelle là, l'assassinat du jeune Freddy Villanueva, là, le traitement qu'il y a eu par rapport à ça, l'enquête qui a pris un temps fou, mm-hmm. Le refus des forces constabulaires de reconnaître leur tort dans ça, ça a été tout un cafouillis que cette histoire-là, ça l'a beaucoup ameuté l'opinion publique et effectivement, des organismes de défense et de promotion des droits se sont beaucoup investis dans ce dossier-là parce que c'est clair qu'il va falloir qu'on réagisse à ça parce que le phénomène prend de l'ampleur. C'est très insidieux et ça l'amène beaucoup sa part de préjugés, d'augmentation du racisme ou de la xénophobie et autres. Fait que c'est quand même pas anodin. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, les convictions politiques, donc le profilage politique qui vise les convictions politiques ou sociales des individus. Dans le même rapport que je vous parlais tantôt, on nous disait qu'entre 1999 et 2004, il y aurait eu 2500 personnes d'arrêtées au Québec dans le cadre de différentes manifestations. Et juste en juin 2010, au sommet du G20 à Toronto, là où on se rappelle qu'Harper a fait faire un beau petit lac, a essayé d'isoler ses amis, il y a eu, juste à cette occasion-là, 1105 personnes qui ont été arrêtées, détenues aussi, là. Mm-hmm. Puis pourquoi? Juste parce qu'on disait qu'elles étaient marginales, anarchistes mm-hmm. ou féministes. Il y a eu des photos de gens qui ont été battus ou autres.
Mais Manon, on peut donner un exemple très concret qu'on a vécu récemment, nous, dans une manifestation de la coalition Halte à Charest, où on allait dénoncer les mesures très à droite du gouvernement Charest. Et il y a 5 personnes qui ont été arrêtées dans cette manifestation-là et parce que comme geste symbolique, on apposait des mains faites de gouache sur un mur du gouvernement du Québec. Et parmi les gens qui avaient apposé ces mains-là, certaines personnes étaient plus âgées, des femmes plus âgées, et c'est cette femme-là, à qui je pense en ce moment, n'a pas été arrêtée,
non,
contrairement
c'est des
aux jeunes.
Et des gens qui avaient des cheveux longs. Fait
exactement.
Qu'on voit bien que sur le nombre de manifestants, les policiers ont clairement identifié des personnes cibles. C'est devenu ces personnes-là qu'on a procédé à l'arrestation. Alors, quand je parle de profilage ou de ciblage, on voit bien l'intention mm-hmm. derrière ça. Puis ça ramène à autre chose, c'est... faut voir dans ça, là, ce que tu viens de dire, c'est que les interventions ou les arrestations préventives, bien, c'est discriminatoire parce que si tu penses au genre d'arrestation qu'il y a ou aux personnes qu'on cible, je te dirais qu'il y a des endroits où est-ce qu'il n'y aurait pas de problème. Exemple, je pense pas que si les infirmières débraient demain ou font une grève ou une ligne de piquetage ou vont au bureau d'un ministre ou autre, qu'il va y avoir des arrestations parce que les infirmières manifestent dans un cadre légitime de grève.
La même chose au
niveau des manifestations syndicales. Il y a rarement eu des arrestations, puis je ferai une parenthèse là-dessus. Parce que toi et moi, nous avons participé, n'est-ce pas, à une manifestation il n'y a pas longtemps, en avril, si je ne m'abuse, organisée par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Avant le départ, on a vu arriver les policiers et ils ont tout de suite cerné un groupe particulier. C'était des jeunes identifiés au bloc POT. Ils les ont encerclés et ils ont arrêté. Pourtant, on était quoi? 60 000? Il y a peut-être une vingtaine d'arrestations. On avait déjà ciblé 20 personnes parmi 60 000. Est-ce que les 58 980 autres étaient corrects? Est-ce qu'il fallait cibler davantage ces 20-là? ça vient démontrer aussi que c'est discriminatoire puis que ça repose sur des fausses raisons.
Mm-hmm. Des préjugés négatifs.
Ben oui, un syndicaliste, c'est une personne responsable, c'est un travailleur. Hein,
Et ça dépend toujours dans quel milieu, parce que la même grève syndicale, si elle est faite dans un secteur de construction, on pourrait plus... Dans, en tout cas, je me rappelle dans les années 90, là, de certaines grèves qui étaient beaucoup plus à risque et où là, les gens, avant même que ça commence, avaient déjà des
Bien là, il y avait aussi les possibilités de peur d'émeute mm-hmm. ou de grabuge. Ça, c'est un autre phénomène. Mais moi, là, quand je veux... Aujourd'hui, ce que je veux surtout qu'on porte l'attention, c'est sur ce qui est du profilage. Identifier des individus par... cibler davantage ceux-là par rapport à d'autres. C'est un peu ça le but du profilage. C'est de toute façon ça. Fait que là, j'étais rendue à te parler du profilage politique. On vient de le dire. Qu'est-ce que ça vise? Pourquoi? Si tu penses autrement, tu es différent. Tu défends des valeurs comme les altermondialistes défendent des valeurs, les groupes environnementalistes ou autres. Bon, ben tu risques plus. Tu sais, Greenpeace se fait souvent talonner et arrêter, hein, on le sait, pour avoir mis des bannières. Est-ce qu'il y a un geste grave de mettre une bannière? Mais ça l'amène une répression parce que ces gens-là sont identifiés clairement. Puis le dernier groupe qu'on pourrait dire, ben c'est le profilage social. Puis je l'ai dit tout à l'heure, ben ça le profilage social. Dans ce cas-ci, on fait beaucoup plus référence à la condition sociale comme les personnes itinérantes, les jeunes de la rue, les personnes pauvres qui prennent les espaces publics, puis souvent on va les identifier, on va croire que c'est des personnes pauvres à cause de leur habillement, les travailleuses du sexe. Mm-hmm. Puis dans le cas des travailleuses du sexe, je dirais majoritairement, ils peuvent être victimes d'eux, mais davantage les femmes autochtones. On sait qu'à Montréal, les femmes autochtones se retrouvent beaucoup là pour vivre des fruits de la prostitution et elles sont vraiment ciblées de façon systématique. Puis, il faut voir aussi qu'avec ça, tout à l'heure, je t'ai parlé de constat d'infraction, ces choses-là. Bien, ça vient avec, hein? Mm-hmm. Quand on ne fait pas juste un profilage, on ne fait pas juste dire à quelqu'un « on ne te veut pas dans notre décor », c'est souvent on va émettre des constats d'infraction. On sait que dans le cas des personnes itinérantes et des jeunes de la rue, ils reçoivent énormément de constats d'infraction. Dans les derniers rapports, on parlait que 72 % des personnes itinérantes à Montréal avaient reçu des constats d'infraction, puis ils ont dû être ils auraient dû normalement où elles auraient dû être emprisonnées parce qu'elles n'ont pas pu payer leur amende. Mm-hmm. Ça veut dire que tu as un constat, tu as un dossier, puis tu vas peut-être être emprisonné. C'est vraiment rendu loin. C'est quand tu disais tantôt l'État totalitaire à la Big Brother, je m'excuse, mais c'est vrai qu'on n'en est vraiment pas loin. Il faut avoir une seule pensée, celle que le dirigeant veut. Il n'y a pas place à une pensée différente. Quand je te parlais tout à l'heure des constats d'infraction, dans le langage courant, là, pour les intervenants, comme ceux qui travaillent à la Ligue ou autre, eux autres appellent ça la criminalisation de la pauvreté.
Et si je résume bien, là, au fond, c'est qu'on punit ces personnes-là pas pour ce qu'elles ont fait ou pour ce qu'elles sont, mais vraiment, on les punit pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles font, et non pas pour ce qu'elles font.
En fait, c'est ça. Tu sais, l'allure, c'est l'allure, le style, l'identification qu'on fait. Fait que c'est pas ton geste, c'est pas le fait d'être allé manifester qui est le problème. C'est on t'identifie comme un anarchiste dans manifestation, parce que encore là, on est encore capable de manifester au Québec, là, mm-hmm. au Québec et au Canada. Je sais pas si ça n'en viendra à plus drastique que ça, mais c'est pas la manifestation comme telle qui est le problème. C'est qui est à la manifestation, et quel est le thème de la manifestation?
Et les gens qui font cette répression-là, bien, le font parce qu'ils ne veulent pas qu'on dérange leur beau paysage, leur beau coin de rue, leur beau quartier. Hein. Le syndrome du pas dans ma cour.
C'est en plein ça. On ne veut pas que ça se passe devant. On ne veut pas le voir. Ça existe, mais on ne veut pas le voir.
Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent partout dans tous les secteurs de la société. Mais ce qu'il faut que les gens réalisent, c'est que ça signifie que ça a des impacts sur les droits et libertés des gens qu'on agresse.
Bien, c'est en fait un déni des droits Exactement. Et libertés. Mais on pourrait aborder ça à l'autre tranche de notre...
on va aller en pause musicale.
C'est ça que j'avais compris, là. Fait que, au retour, on pourra parler de l'atteinte aux droits.
Alors, on poursuit sur cette belle lancée. À tout à l'heure.
Je passe la vadrouille dans ton bistrot. je regarde la lune, souvent j'ai le cœur gros. Le travail sur appel quand tu es débordé. Ni papier, ni respect, ni emploi assuré. I hate you, patron. I hate you, mon patron. I hate you, patron, chaque fois que je lave la vaisselle. I hate you, patron, toi tu regardes les demoiselles. Patron, tu fais la vie dure à mon échine, à mon allure. J'habite les bas-fonds, toi le haut des sommets. Je rentre le menton, tu parles d'intérêt. Tu as la grosse voiture, les avions de tracas. Mes heures supplémentaires, tu ne me les paies toujours pas. I hate you, patron. Patron, I hate you patron, des fois quand je fais tes poubelles. I hate you patron, je trouve les oui des demoiselles. Patron, jamais je ne verrai l'Espagne asservie à tes soirées au champagne. I hate you patron, la nuit je rêve de cyanure. I hate you patron, le jour je barbouille ton figure. Patron, j'en ai plein le dos, tes conseils. Malheureusement, c'est toi qui signes mon chèque de paye. De mon pays, de parler au soleil, de goûter au coco, retrouver la famille, du temps doux des amis. Demain je laisse un mot écrit, je suis parti. I hate you patron, c'est mieux pour vous patron. I hate you patron. Passe la vadrouille dans ton bistrot. Quand je regarde la lune, souvent j'ai le cœur gros.